Bonjour à tous. Eh bien, me voici encore pour vivre avec vous ce moment de culte, ce moment de partage, ce moment d'adoration. C'est un bon moment. Que le Seigneur bénit, que le Seigneur bénira encore. C'est ma prière que je poursuis avec vous maintenant. Prions. C'est un privilège que de te savoir à nos côtés ce matin, maintenant. C'est un privilège de savoir que nous pouvons bénéficier de ton aide, de ton secours. Soutiens chacun d'entre nous. Sois avec nous, sois avec aussi les moniteurs qui sont avec les enfants. Que ta parole puisse briller, nous éclairer, nous encourager, nous rendre plus forts. C'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Voici donc le passage qui fera l'objet de notre méditation pour ce matin. Il se trouve, comme vous pouvez le lire, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. Et j'en lis de ce chapitre les versets 13 à 23. C'est donc l'apôtre Paul qui s'adresse à ses correspondants de Corinthe. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même, aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Quant à moi, je n'ai usé aucun de ces droits et je n'ai pas écrit cela pour qu'il me soit attribué. J'aimerais mieux mourir. Personne ne réduira à néant mon motif de fierté. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-loi, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-loi. Et pourtant, je ne suis pas sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. En tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Nous n'allons pas nous arrêter sur toutes les complications du texte paulinien, réputé quelquefois pour ses expressions un peu alambiquées, mais il y a quand même des choses qui apparaissent relativement clairement. Notre lecture de ce matin donne les bases d'une convention sociale pour les ministres de l'Évangile. Une convention selon laquelle ceux qui annoncent la bonne nouvelle veulent en vivre. Et même si son auteur n'a pas voulu en user avec les Corinthiens, il annonce quand même, il rappelle que c'est chose normale. Pourquoi ne veut-il pas, n'a-t-il pas voulu user de son droit ? Sans doute pour se sentir libre de dire ce qu'il pensait à des gens dont il ne voulait pas dépendre. Mais dans ce discours, il aborde aussi une autre question, la question de la liberté en Christ, et ceci d'une manière plus large encore. Et là, je crois qu'il donne quelques éléments qui peuvent nous être utiles. Alors, la liberté en Christ que nous connaissons, est-ce qu'elle est absolue ? Est-ce que nous sommes libres de faire comme nous avons envie de faire ? Est-ce que nous sommes libres du regard des autres, comme l'apôtre Paul l'était ? Est-ce que nous pouvons faire tout ce que nous voudrions ? Question auxquelles il serait difficile de répondre oui sans ajouter quelques précisions. Parce que, vous le savez, il est évident que nous ne sommes pas libérés de tous les ressorts de notre nature humaine, qui n'est pas toujours bien disposée. L'Église locale est constituée par un groupe de personnes avec sa propre dynamique de groupe. Alors certes, conduite par l'Esprit de Dieu, mais aussi avec tout ce qui caractérise les relations humaines. Avec, puisque nous sommes encore ici-bas, du bon et puis du moins bon. Alors d'abord, est-ce que pour Paul, libre veut dire maître de son propre destin ? Et nous en sommes à la vocation de Paul. Il a reçu une vocation particulière, et il le dit très nettement, et d'une façon très massive, la nécessité d'annoncer l'Évangile m'est imposée. Et pour être plus exact, il faudrait traduire, hop, je vais trop vite, la fatalité m'en est imposée. Un mot très fort, hein. Un peu comme les héros du théâtre de l'Antiquité, Paul ne peut rien faire pour fuir cette vocation que Dieu lui a adressée. C'est ce qui nous vaut cette fameuse déclaration « Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle !» Une déclaration que l'on connaît quelquefois sous la forme « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile !» Pour Paul, être libre ne venant pas dire être maître de son destin. Mais quand même, cette fameuse déclaration mérite quelques précisions. Malheur pour moi. On l'a parfois employé dans le but de motiver pour l'évangélisation en la présentant comme une menace pour ceux qui ne sont pas jugés assez fervents. Alors évidemment, ça fait partie de la vocation de tous les chrétiens que de refléter quelque chose de Dieu. Mais Paul ici ne parle que de son propre cas. Hein. On est à la première personne du singulier. Et tout le monde n'a pas une vocation absolument semblable. Ce fameux « malheur à moi » ou « malheur pour moi » est à prendre non pas comme la menace d'une sanction particulière. Ce malheur correspondrait, je crois, plutôt à quelque chose de plus profond, à un déséquilibre, un malaise intérieur que Paul aurait connu en n'accomplissant pas ce à quoi il était destiné. il aurait été en quelque sorte malheureux de ne pas pouvoir faire ça. Je le dirais autrement, la nécessité s'impose non pas de l'extérieur comme quelque chose qui pourrait lui tomber dessus, mais de l'intérieur. Et il me semble sans doute plus juste de traduire ce que la version que j'ai utilisée ce matin, quel malheur ça serait pour moi. De nos jours, Paul pourrait dire, oui, je suis programmé pour ça, c'est dans mes gènes, je ne pourrais pas faire autre chose. Vous pourrez peut-être imaginer ce que répondrait un grand violoniste à qui on proposerait d'abandonner son violon. Voilà, et bien pour Paul, cette contrainte d'annoncer l'Évangile n'est pas mal vécue. Non seulement elle n'est pas mal vécue, mais elle va lui apporter autre chose. Voilà. Elle va lui apporter d'abord un vrai épanouissement, une vraie richesse. Bien sûr, Paul se soumet à Dieu, et une telle soumission exige un renoncement à sa propre volonté. Et on imagine facilement que ça a pu lui coûter beaucoup, quelquefois. Il n'y a qu'à se reporter au livre des Actes, qui raconte, on peut dire ses aventures, mais quelquefois ses mésaventures. C'est sa vocation de ne pas faire comme il a envie de faire. Mais il ne se considère pas pour autant comme un mercenaire, comme un étranger, qui n'aurait qu'à attendre, avant de repartir, un salaire mérité à cause de tant de frustration et d'efforts. Il le dit de cette manière, « Mon salaire, c'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce sans user du droit que l'Évangile me donne. » Alors vous allez me dire, mais son salaire, c'est de ne pas en avoir. Mais il a bien mieux que ça. Il participe à l'œuvre du Seigneur et ça le rend heureux. Les affaires de Dieu sont les siennes. Il est comme un fils dans les affaires de son père. Il ne peut pas s'en désintéresser parce qu'il y a part. Et c'est ce qu'il dit. En tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Il est dans l'entreprise, il est actionnaire. J'ajouterai un mot aussi qui, même s'il n'est pas employé dans notre texte, est utile. Pour lui, je dirais, c'est une véritable passion. Un mot intéressant qui vient d'un verbe grec qui veut dire souffrir. On l'applique justement aux souffrances du Christ. Dans notre langage, c'est un peu différent, mais il y a quand même l'idée. Il désigne ce qui nous motive le plus, qui nous fait faire des choses que nous ne ferions pas, quitte même quelquefois à en souffrir, quitte quelquefois à perdre. Justement, Paul est prêt à souffrir pour ce qui est sa raison de vivre, pour ce qui le fait vibrer. En fait, pour ce qui le met en accord avec lui-même, avec sa nature d'enfant de Dieu, avec sa nature d'apôtre. Alors, cette contrainte, il la vit très bien, alors qu'en même temps, elle lui procure une grande liberté. Et voici, c'est justement l'autre privilège à signaler, il est libre. Il ne se sent pas obligé de se soumettre aux autres. Et il s'en félicite. Vous savez, quelquefois, on regrette de ne pas pouvoir avoir la liberté de dire ce qu'on a envie de dire, alors qu'on aimerait bien. Eh bien, lui, il est libre. Il s'en félicite. Libre, je vais trop vite, à l'égard de tous. Il y a peut-être une diapo qui manque. libre à l'égard de tous. Mais dans le même temps, vous me direz, il se fait le serviteur de tous. Et on y reviendra. Hein. Mais quand même, il est libre. À l'époque, il fallait avoir un culot extraordinaire pour imaginer, lorsqu'on était juif, pouvoir fréquenter des non-juifs. Ou, à l'inverse, lorsqu'on était un non-juif, pouvoir fréquenter des juifs. Et à l'époque de Paul, ce choix occasionnait de grosses difficultés dans les premières églises. Eh bien, Paul va même encore plus loin en se faisant comme ceux à qui il parle. Libre à l'égard de tous, il se sent affranchi devant toutes les catégories. Les conventions sociales ou religieuses ne sont plus des contraintes. Les pressions ne l'impressionnent pas. N'en déplaise aux bien-pensants de son époque, il peut approcher toutes sortes de gens, les plus éloignés de sa culture, les plus difficiles à convaincre. Et j'ajouterai que même libre, il est aussi à l'égard des résultats. Bien sûr, il dit qu'il veut en gagner un grand nombre, mais il ne se fait pas trop d'illusions. Et s'il estime pouvoir arriver à en convaincre quelques hommes, eh bien, il saura se réjouir du peu. C'est pas un graphique de vente très performant pour les commerciaux d'aujourd'hui, mais tant pis, l'apôtre Paul est libre. Je poursuis avec la partie suivante, le chapitre suivant, un couple vocation-liberté, quand même difficile à mettre en œuvre, mais quand même qui peut se révéler fécond. Comment, en étant libre à l'égard de tous, Paul peut-il rester libre en se faisant serviteur de tous ? C'est vrai que, quand même, il fait ça avec un zèle tellement surprenant qu'on peut se demander où est sa liberté. La répétition du mot « tous » ou « toutes » en témoigne. Et voilà, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, etc. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle. Bien sûr, mais en dépit des apparences, ce zèle dont il fait preuve en se faisant tout à tous ne le fait pas retomber dans une nouvelle servitude. Il ne se laisse pas influencer, justement. Il ne dit pas être devenu juif avec les juifs ou sans loi avec les sans loi, mais comme juif avec les juifs, comme étant sans loi avec les sans loi. Et de bien préciser à chaque fois, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi. Jésus disait bien qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et il ajoutait, s'attacher à l'un conduit à mépriser l'autre. Alors pour échapper aux servitudes, pour échapper aux pressions humaines, pour rester libre à leur égard, bien sûr, c'est le Christ qui veut mieux servir. Et la seule fois que Paul ne prend pas cette distance, c'est lorsqu'il parle des faibles. Il ne dit pas « avec les faibles, j'ai été comme les faibles », mais « j'ai été faible », tout simplement. Il y a sans doute des choses à méditer. Quelques mots pour conclure, à présent. Je crois que même si nous n'avons pas la vocation de Paul, eh bien, il y a quand même une nécessité intérieure qui nous habite. Il y a quelque chose qui nous pousse. Ou mieux, pour employer une expression biblique, est gravé dans notre cœur. Et là, je cite un texte prophétique. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est la promesse divine qu'on lit dans le livre de Jérémie et qui concerne justement la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. La présence du Christ en nous nous transforme, nous oriente. S'il fallait un autre texte biblique, je citerais ces paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre ou vous êtes la lumière du monde. En remarquant que ce n'est pas un ordre que Jésus donne à suivre, hein. C'est une réalité qui existe. Hein. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit la qualité de notre relation avec Dieu, dès l'instant que nous sommes disciples du Christ. Alors même si notre vocation n'est pas celle de Paul, même si la manière de refléter la gloire du Seigneur peut différer selon les individus, je pourrais dire à notre tour, quel malheur pour nous si nous manquons à la vocation liée à notre nature en Christ. Pauvre de nous si nous n'apportons pas de saveur au monde ou si notre lumière ne brille pas autour de nous. On peut bien peut-être s'illusionner en négligeant ce que l'on est. Ça peut arriver, mais je crois que ça ne dure qu'un temps. Et puis, en attendant, un tel choix est contre notre propre nature d'enfant de Dieu. Donc avec peut-être des regrets, des frustrations, notre vie ne serait pas vraiment réussie si on se complaisait là, dans cet état-là. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, réussir notre vie, accomplir notre vocation. Pour nous, comme pour saint Paul, bien la liberté n'est pas une autonomie absolue. D'une manière ou d'une autre, nous restons serviteurs. Nul ne peut servir de maître, et nous savons lequel il vaut mieux servir. Notre liberté en dépend. Pour que nous soyons à même d'aimer Dieu et notre prochain, tout en restant libres de nous-mêmes, et surtout que nous restions libres de beaucoup d'illusions, parce que il y a beaucoup d'illusions auxquelles nous pouvons céder. Heureux sommes-nous donc si nous nous engageons sur cette voie. Heureux d'un bonheur qui ne dépend pas de notre situation financière, qui ne dépend pas de notre santé, qui ne dépend pas de nos affaires qui marchent bien ou qui marchent moins bien. Ce bonheur, c'est Dieu qui le donne. Et puis, eh bien, une autre bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls, puisqu'il est avec nous. Amen.